الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
دونك الشيخ حفظه الله كومونس أن فيزون لي زيلوج دالله جل وعلا أو لو لومو إي أن أتيستون دو سون يونيسيتي. Il prie ensuite et salue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
في هذا المجلس بإذن الله عز وجل سيكون الكلام والحديث عن أحكام النكاح.
Donc nous allons parler ce matin inshallah sur les règles relatives au mariage.
هذا الموضوع له أهمية عظيمة عند المسلمين، ولأهميته قد أفرد له الفقهاء في كتبهم الفقهية أبوابا خاصة به.
Ce chapitre, de par son importance, les ulama du fiqh, donc les savants de la jurisprudence, lui ont spécifié des chapitres bien définis dans les livres de jurisprudence. Et donc c'est un chapitre qui est très important.
يذكرون أحكام النكاح ويذكرون مقاصد النكاح ويذكرون كذلك آثار النكاح.
Donc les savants y citent et exposent les règles qui concernent le mariage et ils clarifient également ses finalités et ses objectifs ainsi que leurs impacts à ces règles.
الزواج والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
Le mariage est un acte légiféré et on trouve la preuve de cela dans le livre d'Allah Jalla wa Ala, dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans le consensus des savants.
قال الله عز وجل في كتابه العظيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا امر من الله عز وجل.
Allah Jalla wa Ala dit dans ce qui a pour sens rapproché, épouser alors en dehors de ça, après avoir parlé du mariage, épouser en dehors de cela les femmes qui vous plaisent, yani une, deux ou trois.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج ورغب به. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
Donc le verset indiquait la preuve du mariage, de la légifération du mariage dans le Coran. Maintenant, venons-en à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet encouragé. Il a encouragé de se marier. Il a dit à Ma'ashara Shabab, ô vous les jeunes, celui qui parmi vous est capable de se marier alors qu'il le fasse.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
Il dit également صلى الله عليه وسلم épousez les femmes affectives, les femmes qui sont pleines de douceur et qui sont également fécondes, car j'espère ou je vais me vanter du grand nombre de ma communauté sur les autres communautés au jour du jugement.
وقد اجمع اهل العلم على مشروعيه الزواج والنكاح واجمعوا على حرمه السفاح والزنا والعياذ بالله.
Et également donc tous les savants de l'islam sont unanimes quant à la légifération du mariage, et de la même manière qu'ils sont unanimes sur le fait que le mariage est un acte légiféré en islam, ils sont également unanimes que l'inverse, donc qui est la fornication ou le mariage, ou plutôt les relations illégitimes, est interdit.
نأتي أولا على ماهية النكاح وتعريف النكاح عند المسلمين.
Donc venons-en maintenant à savoir qu'est-ce que réellement le mariage. Qu'est-ce que réellement le mariage dans l'islam?
النكاح أو الزواج تعريفه عند المسلمين والتعريف ينبغي أن يضبط ويعرف فيه المقاصد وفيه الآثار. هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. عقد شرعي يقتضي استمتاع كل من الزوجين بالآخر. نعم.
Donc la définition religieuse du mariage. Et donc Cheikh nous dit, hafizahullah, que les définitions sont très importantes à retenir, car elles contiennent toutes les règles, elles contiennent tout ce qui concerne la chose définie de manière générale. Donc la définition du mariage, c'est un acte shar'i, donc c'est un contrat qui est religieux et qui rend licite le fait de pouvoir jouir et profiter l'un de l'autre en parlant des deux époux. Donc c'est un contrat religieux qui rend la jouissance des deux époux licite.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وهنا موضع الشاهد استحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن أصبح هذا الاستمتاع حلالا بسبب العقد الشرعي الذي هو النكاح.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez bons envers les femmes. Soyez bons envers les femmes et comportez-vous de la bonne manière avec les femmes, car elles sont telles des captives auprès de vous. Et yani, ce qui nous intéresse dans ce hadith concernant le sujet de la définition de l'nikah, le Nabi sallam juste après a dit: car vous avez rendu licite leur partie par une parole d'Allah. Yani, ici il vise le contrat religieux de mariage.
عقد النكاح ليس عقد قضاء شهوة ثم ينتهي بعد ذلك، بل عقد النكاح عقد وميثاق غليظ كما وصفه الله عز وجل بين الزوجين.
Le contrat de mariage n'est pas seulement un contrat dans lequel chacun profite de l'autre, yani chacun jouit de l'autre et ensuite c'est terminé, non. Mais plutôt le contrat de mariage est un contrat et un engagement et un pacte très fort, un engagement solennel comme Allah Jalla wa Ala l'a décrit dans son noble livre.
وصفه الله عز وجل بالميثاق الغليظ. قال الله عز وجل وأخذنا منكم، أي النساء أخذنا من الرجال ميثاقا غليظا.
Donc Allah Jalla wa Ala l'a décrit comme étant un pacte solennel, un mithaq ghalid, c'est-à-dire un engagement très fort. Allah Jalla wa Ala dit dans le sens du verset rapproché: et elles ont pris de vous un pacte très fort, un engagement solennel, en parlant du contrat de mariage.
هذا العقد العظيم عقد النكاح يوجب وفاء كل من الطرفين بمقتضى الزوج يوفي بمقتضى هذا العقد والزوجة توفي بمقتضى هذا العقد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني اتقوا الله عز وجل ولا تنقضوا هذه العقود وأوفوا بشروطها. نعم.
Cet engagement et ce pacte qui a été pris entre les deux époux implique et oblige à chacun des deux de respecter cet engagement de la manière la plus judicieuse. Allah Jalla wa Ala dit dans ce qui a pour sens rapproché: ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud. Oh vous qui avez cru, respectez fidèlement vos engagements.
An-nikah wa 'aqd an-nikah lahu masalih 'azima jiddan لا يعرفها إلا من تمنعنا في هذا العقد العظيم.
Ce contrat de mariage implique, ou plutôt comporte, des intérêts. Il comporte des bénéfices immenses. Et ne connaît ses intérêts et ses bénéfices que celui qui aura longuement médité sur ce contrat de mariage et ses règles.
من مصالح النكاح بقاء النسل البشري. يعني لو لم يتزوج أحد. الرجل قال أنا لا أتزوج النساء، والمرأة قالت أنا لا أتزوج الرجال، من أين يأتي النسل البشري؟ من مصالح النكاح هو بقاء النسل البشري.
Parmi les bénéfices et les finalités du mariage ou du contrat de mariage, il y a le fait de préserver la descendance, la progéniture. Car si chaque homme et chaque femme disait: moi je ne me marie pas, je reste comme ça, je ne me marie pas, comment voulez-vous que nous ayons une progéniture et une descendance?
من مصالح النكاح هو تكثير من يعبد الله عز وجل. يتزوج الرجل بالمرأة تأتي ذرية، الذرية هؤلاء يعبدون الله عز وجل وهذا من مصالح النكاح والزواج.
Et parmi également les intérêts et les bénéfices du mariage, il y a le fait de multiplier le nombre de gens qui adorent Allah Jalla wa'ala, de multiplier le nombre de musulmans, de serviteurs d'Allah Jalla wa'ala qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala.
من مصالح النكاح ومصالح الزواج هو إعفاف الفروج وصيانة الفروج من الوقوع بالحرام من الوقوع بالزنا والعياذ بالله. فإذا تزوج الرجل بالمرأة قضى الرجل شهوته بالحلال وقضت المرأة شهوتها بالحلال، إن لم يتزوجوا فالرجل يقضي شهوته بالحرام والمرأة والعياذ بالله تقضي شهوتها بالحرام. هذا من أعظم مصالح الزواج. نعم.
Parmi également les bénéfices et les intérêts du mariage, nous avons le fait de préserver la chasteté de chacun. Car le mariage, en effet, est un moyen de préserver sa chasteté et le fait de préserver la personne de tomber dans ce qui est interdit parmi les mariages, parmi les relations illégitimes et la fornication. Et en effet, si une personne ne se marie pas, forcément, elle va tomber dans le haram. Et lorsqu'elle est mariée, elle va avoir des rapports qui sont halal, qui sont totalement légiférés.
من مصالح النكاح والزواج قيام احد الطرفين بواجبه امام الاخر. من ذلك انفاق الرجل على المرأة. كثير من النساء، نقول كثير والا البعض قد يكون هو الذي ينفق، كثير من النساء تجلس في بيتها والرجل هو الذي ينفق عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا من محاسن الإسلام. المرأة تجلس ويجب على الرجل أن ينفق بالمعروف على المرأة. هذا من محاسن ومصالح الزواج والنكاح. نعم.
Parmi également les intérêts et les bénéfices du mariage, nous avons le fait de concrétiser le devoir de chacun envers l'autre. Et parmi les devoirs, il y a le devoir du mari qui est de s'occuper de sa femme, de la prendre en charge, de lui subvenir à ses besoins et à sa subsistance et de la préserver. Et ceci fait partie des grands bienfaits de l'islam.
كذلك من مصالح الزواج والنكاح هو حصول السكن بين الزوجين والراحة النفسية والطمأنينة بين الزوج وزوجته. وقد وصف الله عز وجل ذلك في كتابه، قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها. مهما كان عندك من أصدقاء رجال، وكذلك مهما كان للنساء من صديقات نساء، لا يحصل السكن الحقيقي والطمأنينة الحقيقية والراحة النفسية إلا بين الرجل والمرأة بالحلال. هذا قاعدة ومعروفة والله المستعان. نعم.
Et parmi également les bénéfices et du mariage, nous avons le fait de trouver le bien-être, le fait de trouver le repos et la quiétude et la tranquillité auprès de l'époux, que ce soit l'homme auprès de sa femme ou de la femme auprès de l'homme. Allah Jalla wa'ala dit en effet, c'est lui qui a créé pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elle une tranquillité, un bien-être et une quiétude. Et Cheikh nous dit, hafidhahullah, peu importe le nombre d'amis que tu auras, peu importe le nombre de connaissances que tu auras, tu ne trouveras jamais la vraie tranquillité et le vrai bien-être et la vraie quiétude qu'auprès de ton épouse qui est issue d'un mariage halal.
من مصالح الزواج حماية المجتمعات من الوقوع في المحرمات، والوقوع في المحرمات هو الذي يفسد أخلاق الناس والله المستعان. فإذا قضيت الشهوة بالحلال بالعقد العظيم الذي بين الزوجين فهو يحمي المجتمع من الوقوع في الحرام والله المستعان. نعم.
Également parmi les bienfaits, les bénéfices du mariage, il y a le fait de préserver les sociétés de la corruption, de la turpitude et de la débauche. Car le mariage est un moyen de préserver tout cela et bien sûr de rester dans un contexte noble et halal.
من مصالح الزواج وهو أمر عظيم أيضا حب الأنساب. المرأة إذا ولدت هذا الولد لمن؟ فالزواج يحفظ النسب
فالولد يكون للزوج الذي تزوج، لا تختار المرأة أي رجل يكون أبا لولدها، وهذا مقصد عظيم وهو حفظ النسب. نعم.
Et parmi également les intérêts, les bénéfices du mariage, il y a le fait de préserver les lignées, de préserver les liens de parenté. Et ceci est une chose très importante que l'islam est venu préserver avec le mariage.
من مصالح النكاح والزواج، ونختم بذلك، وإلا المصالح كثيرة جدا، الترفع ببني آدم عن الحياة البهيمية. البهائم في الغابات كل ينزو على الآخر، كل يأتي على الآخر، أي ذكر ينزو على الأنثى، ولكن من مصالح الزواج أنه يرفع بني آدم عن مثل حياة البهائم. نعم.
Et enfin, je terminerai en citant parmi les intérêts et les bénéfices du mariage. Sinon, Cheikh, il nous dit ces bénéfices et ces intérêts, ils sont très nombreux. Il serait trop long de tout citer. Mais parmi un point que Cheikh voulait citer ici, le fait d'élever, le fait d'élever l'être humain d'une vie bestiale, d'une vie qui n'a, entre guillemets, pas de sens, une vie bestiale, vers une vie noble, une vie humaine. Car si on compare, yani, مثلاً, dans les animaux, etc., un animal, il va yani, passer son besoin, où est-ce qu'il trouve le moyen de le faire. Tandis que le mariage préserve cela, préserve de ce comportement et rend yani, la personne, l'humain, quelqu'un de noble, une personne noble et honorable.
نأتي الآن إلى حكم النكاح. النكاح تختلف أحكامه بين كل شخص إلى الآخر، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما في بعض الأحيان. نعم.
Donc nous allons passer désormais au jugement de nikah, du mariage. Quel est le jugement du mariage? Cheikh nous dit, hafidhahullah, le mariage est concerné par les cinq jugements de l'islam. Il peut être obligatoire, comme il peut être recommandé, comme il peut être simplement autorisé, comme il peut être détestable et même haram, interdit.
يكون النكاح واجبا إذا كان هذا الشخص يخاف الوقوع بالزنا فيجب عليه الآن أن يتزوج، إما يتزوج وإما يقع في الزنا والعياذ بالله، إذن يجب عليه أن يتزوج حتى يحصن نفسه من الوقوع في الحرام. نعم.
Le mariage est obligatoire pour la personne qui craint de tomber dans l'interdit والعياذ بالله et dans la fornication et les relations illégitimes. Dans le sens où si la personne ne se marie pas, il va tomber forcément dans cet interdit. Pour cette personne, le mariage est obligatoire afin de préserver sa chasteté et de ne pas tomber dans l'interdit.
يكون النكاح مستحبا مع وجود الشهوة ولكن لا يخشى الوقوع في الزنا. عنده شهوة رجل مثلا، مثال على ذلك، عنده شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في الزنا، هنا يكون ماذا؟ مستحبا في حقه لاشتماله على المصالح التي ذكرناها.
Ensuite, le mariage est simplement recommandé pour une personne qui trouve une envie chez lui de se marier, mais pas au point de tomber dans l'interdit. Pour cette personne, spécifiquement, le mariage est recommandé et non pas obligatoire car il ne craint pas de tomber dans l'interdit.
يكون الزواج والنكاح مباحا إذا لم يجد شهوة، لا توجد لديه شهوة، مثل مقطوع الذكر، مثل الرجل الكبير جدا، قد يكون شاب ولا توجد لديه أي نوع من أنواع الشهوة، هنا يكون الزواج مباحا.
Ensuite, le mariage est simplement autorisé. Donc il n'est ni obligatoire ni recommandé, c'est simplement autorisé pour celui qui ne trouve même pas l'envie de se marier. Pour une personne qui yani ne voit, il n'a aucune envie au fond de lui-même d'aller yani se marier. Pour cette personne, le mariage est simplement recommandé. Enfin, le mariage est simplement autorisé.
قد يكون ونقول قد يكون النكاح مكروها كما ذكر بعض أهل العلم في الحالة السابقة الذي لا يجد شهوة كمقطوع الذكر والكبير وغير ذلك. لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح وهو إعفاؤها، هي أيضاً تريد قضاء الشهوة، فإذا كانت هي تريد يكون في حق هذا الرجل مكروهاً. نعم.
Et de temps en temps, يعني dans le cas très spécifique, le mariage peut être détestable. Mais c'est vraiment dans des cas très spécifiques. Par exemple, Cheikh nous dit, lorsqu'une personne, comme on a cité précédemment, qui n'a aucune envie, il n'est même pas, il n'a aucune envie de se marier ou d'avoir des rapports. Par exemple, une personne qui est impuissante, ou une personne qui est mathalane, qui n'a même pas la tête à ça. Cette personne, si elle se marie, elle peut ne pas donner le droit à la femme. Il peut donc enlever cet intérêt qui est parmi les intérêts du mariage, qui est de préserver la chasteté. Si la femme ne reçoit pas son droit, alors ici le mariage est déconseillé.
يكون الزواج محرما وهذه من الحالات النادرة والقليلة إذا كان هذا المسلم الذي يريد الزواج في دار حرب، مكان فيه حرب بين المسلمين وبين غيرهم، هنا يحرم عليه وإن كانت هذه الحالات نادرة جدا. لماذا؟ لأنه قد يعرض ذريته لاستيلاء أهل الحرب على أولاده وعلى أهله وعلى ذريته. نعم.
Et enfin, le mariage peut être carrément interdit. Mais Cheikh nous dit, Hafidah Allah, ceci est vraiment dans des cas très très rares et très spécifiques. Par exemple, lorsqu'une personne se trouve en guerre, dans une guerre où il ne peut assurer la sécurité de lui-même, ni de sa famille, ni de sa progéniture, alors à ce moment-là, le mariage devient interdit.
جاءت بعض الصفات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعتنا الطيبة التي يحرص المسلم على اختيارها، سواء كانت في الزوج أو كانت هذه الصفات في الزوجة.
Les textes sont venus indiquer des caractéristiques qui sont recommandées d'avoir, que ce soit chez l'époux ou que ce soit chez l'épouse.
وصى النبي وحث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار المرأة ذات الدين.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a recommandé de choisir la femme qui est caractérisée par sa religiosité, de choisir la femme qui a la religion.
قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. غالب النساء من يريد أن يتزوج منهن ينظر إلى هذه الأربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي على اختيار الشيء الأطيب، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى ذات الدين. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال donc la femme est généralement épousée pour quatre caractéristiques. Généralement, les hommes épousent une femme selon quatre critères. Le premier, on l'épouse pour ses biens, ou bien pour sa lignée, ou bien pour sa beauté, ou alors pour sa religion. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, choisis donc celle qui a la religion et triomphe, ici, la vérité, si je traduis littéralement, triomphe. Et le succès de choisir celle qui a la religion, taribat yadak, et donc ça c'est une expression pour dire malheureux, c'est des expressions que les Arabes disaient.
كذلك إذا كان هناك اختيار بين بكر وبين ثيب فالأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه فهلا بكرا يعني اخترت البكر. فذكر جابر رضي الله تعالى عنه أن لديه أخوات، فتزوج جابر رضي الله تعالى عنه ثيبا حتى تربي معه أخواته الصغار. نعم.
Également, lorsque nous avons le choix de nous marier avec soit une femme déjà mariée ou soit une femme qui n'a jamais été mariée, yani vierge. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de se marier avec une femme qui n'a jamais été mariée. Et d'ailleurs, Jabir radiallahu anhu avait des sœurs qui avaient perdu leurs parents. Et donc Jabir radiyallahu anhu s'est marié avec une femme déjà mariée pour que justement elle puisse s'occuper de ses sœurs.
كذلك اختيار الزوجة الولود الودود وهذان الشرطان يعرفان من غالب الأهل امرأة من بيت النساء يلدن بخلاف النساء لا يلدن وكذلك من بيت النساء من أطباعهن أنهن يراعين حقوق الزوج من الود والحب وما شابه ذلك. نعم.
Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mariez-vous avec des femmes qui sont douces, des femmes qui sont affectionnées, et également des femmes qui sont fécondes. Et Cheikh nous dit, comment savoir qu'une femme, par exemple, elle est féconde, ou comment savoir, par exemple, qu'une femme, elle est douce, affectueuse, affectionnée? Il suffit de regarder ses semblables dans cette maison. Si c'est une maison qui est connue pour yani, prendre soin de faire beaucoup d'enfants, etc., alors on en déduit que c'est une femme, inchallah, féconde. Également, si c'est une maison qui est connue pour avoir de l'affection, de la douceur, etc., alors inchallah, ce sera une femme qui sera ainsi.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحديث قبل قليل تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم.
Et le prophète donc a dit sallallahu alayhi wa sallam mariez-vous avec les femmes qui sont douces et les femmes qui sont pleines d'affection et également les femmes qui sont fécondes car j'espère me vanter du grand nombre de ma communauté sur les autres communautés au jour du jugement.
كذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة من بيت طيب بعيد عن المحرمات.
نعم. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint et recommandé de se marier avec une femme, comme on dit, yani, d'une maison qui est bonne, d'une bonne maison, loin et éloignée de toute turpitude et toute chose haram, tout interdit.
قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith choisissez bien, choisissez soigneusement pour votre descendance, yani choisissez votre épouse pour votre descendance et mariez-vous avec des femmes qui sont compatibles et qui sont yani, qui sont compatibles à vous, na'am, qui sont similaires et mariez-les.
وكذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء المتزوجات ببعض الصفات الحميدة أن تحرص عليها. وصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء المتزوجات أن يتصفن بصفات يحرصن عليها.
Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux femmes qui sont déjà mariées à se caractériser par certains comportements et à faire l'effort de s'y attacher.
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ وهذه نصيحة للنساء اللاتي يسمعن. ستأتي نصائح للرجال أيضا. لا تحسبوا النصائح كل النساء. لا نصائح كثيرة عليكم يا رجال. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟
Donc on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure femme, quelle est la meilleure épouse. Et bien sûr ici Cheikh fait une parenthèse, hafidhahullah, il nous dit nous allons citer les caractéristiques qui sont demandées chez l'épouse, mais bien sûr nous allons également citer les caractéristiques qui sont demandées chez les époux. Mais commençons par les épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quelle est la meilleure épouse, quelle est la meilleure femme.
قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا السؤال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. يدخل ينظر إليها بعض النساء يدخل الزوج تعبان من العمل فانظر له جبت أكل ما يصير خلوه تعبان أتى من عمل أتى من شيء يأتي من المسجد ضحكوا عليك أهل المسجد أصدقائك دائما تجلس معهم فهي لا تسره إذا نظر، بل تغضبه إذا نظر، لا تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا يأمرها بمعصية ولكن يطلب منها ما، هذا لا بأس. هي تجلس بجانبه يقول أريد بعد إذنك، بأسلوب طيب طبعا، هذا هو الرجل، ولا عليك أمر، لو سمحتي أريد ماء، اذهب، الرجل مثل المرأة، اذهب وأتي بالماء، ما تطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. إذا أمرها بشيء في نفسها، تلبس لبس معين، في الإنفاق لا تسرف في الإنفاق، فإنها تطيعه في ذلك بالمعروف. لا نتكلم على البغي من الرجال، إنما الكلام بالمعروف. نعم.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné quelle est la meilleure épouse, il a répondu alayhi salatu wa sallam, c'est celle qui te réjouit lorsque tu la vois, et c'est également celle qui t'obéit lorsque tu la sollicites, et c'est également celle qui ne te déplaît pas dans sa propre personne ni dans ses biens ou dans tes biens. Cheikh nous dit hafidhahullah ta'ala, donc je vais essayer de me rappeler tout ce qui a été dit, mais de manière générale c'est celle que lorsque tu rentres chez toi et que tu la vois, elle te réjouit, et non pas celle qui lorsque tu rentres fatigué du travail elle te fait des remarques blessantes et qui te rajoute encore plus de difficultés et de peine à la peine que tu as déjà d'avoir travaillé toute cette journée. C'est également celle qui t'obéit lorsque tu la sollicites. Lorsque tu la sollicites, bien sûr, de manière convenable. Par exemple, Cheikh nous dit, hafidhahullah, tu lui demandes mathalan de l'eau ou autre chose, et elle te dit va toi-même car les hommes et les femmes ils sont pareils. Là, Cheikh nous dit ici, lorsque l'homme demande de manière convenable à sa femme et la sollicite, alors alhamdoulilah, elle lui obéit. Et c'est également celle qui yani, elle ne fait pas de sa personne ni de ses biens un moyen de, yani, de faire détester son mari, et donc elle essaye de faire au maximum pour yani, plaire à son mari. Voilà la meilleure des épouses.
كذلك وردت صفات للزوج كما وردت صفات للزوجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وردت صفات للزوج ينبغي الحرص عليها إذا جاء خاطبا.
Également, nous avons maintenant des sifat, donc des caractéristiques qui sont propres aux époux. On vient de citer les caractéristiques qui sont propres aux épouses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé d'avoir, et nous allons désormais parler des caractéristiques qui sont propres aux époux.
أيتها المرأة وأيها الولي ولي المرأة احرصوا على صفتين بالرجل إذا جاء، الدين والخلق. الدين والخلق. نعم.
Ô ma chère sœur, ô toi qui es tuteur d'une femme qui souhaite se marier, prends soin et fais l'effort de bien veiller à deux caractéristiques lorsqu'une personne vient te demander en mariage. Prends soin et fais très attention à deux caractéristiques qui sont la religion et la moralité, le comportement.
لا يعني ذلك أنك لا تسأل عن أمور أخرى. كل رجل وكل ولي يريد أن يزوج ابنته لا بد أن يسأل أين يعمل، أين يسكن، من أي عائلة، أمور يعني لا بد أن يسأل عليها، ولكن نحن نتكلم عن الأصل الدين والخلق، ثم بعد ذلك اسأل عما شئت ولكن لا تشدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم.
Donc nous avons cité ces deux caractéristiques et nous avons recommandé, et donc c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de bien veiller et de bien faire attention à ces deux caractéristiques que sont la religion et la moralité et le comportement. Mais cela yani, ne veut pas dire qu'on ne pose pas d'autres questions au sujet mathalan, de est-ce que la personne travaille, est-ce que la personne a un logement, où est-ce qu'il habite. Toutes ces questions sont bien sûr, c'est des questions qu'on pose et qu'on demande, mais asl, yani, la base, ce qui nous intéresse le plus, c'est sa religion et son comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, si se présente à vous, donc pour se marier, si se présente à vous une personne ou un homme dont vous êtes satisfait de la religiosité et du comportement, alors mariez-le. Mariez-le, car si vous ne le faites pas, il y aura certes sur terre de grandes tentations et de grands troubles et de grands désordres.
جاءت صفات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج قد حض وحث النبي صلى الله عليه وسلم بالاتصاف بها.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux époux d'avoir certaines caractéristiques.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم الرجال الآن خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille ou le meilleur avec son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille et mes épouses.
بعض الرجال والعياذ بالله خيره يكون لغير أهله أما أهله فلا يرون منه معروفا.
Certaines personnes, et qu'Allah Jalla wa'ala nous en préserve, il est le meilleur non pas avec sa famille, non pas avec ses épouses, mais il est le meilleur avec les gens à l'extérieur. Et والعياذ بالله il est pire avec sa famille et ses épouses.
إذا كان مع أصدقائه ضحك وإذا دخل البيت غضب هذه ليست من صفات المسلمين.
Lorsqu'il est avec ses amis, il rigole, il plaisante. Mais lorsqu'il est avec sa famille, il s'énerve et est plein de colère. Et ceci ne fait pas partie des caractéristiques du musulman.
ينفق على الآخرين من أصدقائه وعلى أمور يعني قد تكون تافهة ولكن إذا طلب أهل بيته مالا شح بيده ولم ينفق حيًا.
Il dépense de ses biens pour ses amis et pour les gens de l'extérieur, même parfois dans des choses extrêmement futiles. Il dépense sans compter. Mais lorsqu'il s'agit de dépenser pour sa famille et pour sa femme, alors le voilà avare. Le voilà qui trouve de la difficulté et il se retient de dépenser.
بعض الرجال وقته كله لأصدقائه. وأما أهله لا يعطيهم شيئا من الوقت فقط يريد أن يقضي شهوته في النوم ثم بعد ذلك لا يجلس معهم ولا يتحدث معهم وهذا ليس من صفات المسلمين.
Et certains, والعياذ بالله, dépensent de leur temps. Ils passent beaucoup de temps avec les gens de l'extérieur, leurs amis, etc. Mais lorsqu'il s'agit de passer du temps avec la famille et avec ses épouses, le voilà avare. Il ne dépense que très peu de temps avec sa famille, simplement pour yani, demander sa shahwa, yani, son rapport, et sans plus. Yani, il passe, juste, il demande ses rapports, yani, de faire des rapports, et également lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour discuter avec sa famille, etc., alors le voilà qu'il ne trouve aucun temps. Mais par contre, de voir, bien sûr, il est très généreux de son temps. Prenez de moi cette règle. Que chacun d'entre vous sache, et que yani, certains savent déjà, il n'y a aucune vie conjugale sans problème.
فلذلك لا بد على الزوج خاصة وكذلك على الزوجة لا بد على الزوج أن يكون صابرا على زوجته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا قد تدخل البيت من مجرد تدخل البيت بلا لا 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 صحيح ترى الشباب الصغار لا يمكن يسمعون الأم مع أبيهم لا 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 الشاب الصغير يقول يا أمي كفى لا 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 بد من الصبر طبعا وكذلك العكس بالعكس ولكن نريد أن نصبر الرجال أيضا ليس كل مشكلة تطرأ عليك تطلق مباشرة هذا خطأ لن تجلس معك امرأة بعض الرجال يريد من المرأة أن تكون صنما لا تتكلم وهذا خطأ من طبيعة المرأة أن تتكلم وكلامها يكون أكثر من الرجل بعض الرجال حتى المستقيمين يريدون من طالبة العلم أن تكون مثله في العلم وفي التحدث لا طالبة العلم عندها مشاعر، وهي مرأة وهي أنثى، وتغاض عليك وتتكلم وتريدك دائما معها، هذه طبيعة المرأة. فلا بد أن تعرف طبيعة المرأة. ومهما رأيتم، هذه نقطة مهمة جدا، مهما رأيتم في وسائل التواصل من حياة كلها حب وورود حمراء، ترى بينهم مشكلات، ولكن لا يظهرون إلا السعادة في دقائق. قد تحصل مشكلات، ولكن لا بد علينا أن نصبر وأن نتحمل وأن نرى الإيجابيات من وراء الحياة الزوجية. نعم.
Donc chef, Najib, il est important de savoir, ou plutôt, je vais donner un conseil spécifiquement pour les hommes. Bien sûr, ce conseil s'adresse également aux femmes, mais ici, je vais parler spécifiquement pour les hommes. Yanni, je les vise en premier. Il faut patienter avec nos épouses. Il faut que l'on soit vraiment patient avec nos épouses. Il faut que l'on les connaisse, qu'on connaisse leur nature, qu'on connaisse leurs faiblesses, afin d'être patient envers elles. Et Cheikh nous dit, il se peut que tu rentres chez toi et que ton épouse, au moindre, yani, tout de suite, simplement, tu as franchi le seuil de la porte et voilà qu'elle hausse. Yani qu'elle hausse la voix sur toi, yani qu'elle parle fort et qu'elle te déplaît dans son comportement. Cheikh nous dit patiente, patiente, yani c'est ta femme, sois doux envers elle. Et yani ce n'est pas le moindre problème qui doit faire de toi un homme qui va divorcer sa femme. Ce n'est pas le moindre problème qui fait que le divorce doit apparaître dans les couples. Abadan, la personne doit patienter. L'homme se doit d'être doté d'une grande patience vis-à-vis de son épouse. Certains parmi nos frères veulent par exemple que leur épouse soit comme lui dans l'apprentissage de la science. Chéri nous dit, Yari, sois doux, sois, prends en considération les occupations de ta femme. Prends en considération ses occupations, elle ne peut pas être comme toi, khalas. Patiente sur elle et avance. Et ensuite il nous dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, quoi que tu vois dans les réseaux, parmi ce que les gens montrent avec ostentation en ce qui concerne les couples, avec des fleurs et une vie qui paraît bien heureuse, sache que dans tous les couples il y a des problèmes. Sache que dans tous les couples, il y a des problèmes, et peu importe ce qu'ils veulent montrer dans les réseaux. Donc, prends en considération cela et regarde toujours le bon côté. Regarde toujours le bon côté et sois yani une personne qui regarde toujours le bon côté de la chose et sois optimiste.
وَقَدْ وَصَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْأَزْوَاجِ وهي أيضا نصيحة للزوجات، ولكن الوصية للأزواج أولى، لأن الطلاق بيدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي آخر. نعم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cette recommandation immense qui s'adresse en premier lieu aux hommes, car yani, le divorce est entre leurs mains. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il est mécontent d'un de ses comportements, alors qu'il regarde tous les autres comportements qui sont bien. Yani, regarde le bon côté de la chose.
قد تكره خلقا من زوجتك وقد تكره الزوجة خلقا من زوجها. مثال ذلك: الرجل لما تزوج وجد امرأته تأكل كثيرا، يعني نهمة الصحن أمامها حينهم لوحدهم عند الآخرين في المطعم، لا تأكل بكل هدوء في البيت، هذه حقيقة، تأكل كثيرا، كره منها، خلق ليس بطيب، هذا واقع يطلق مباشرة. لا، قد تكره خلقا فترضى منها أنها تعينك على الخير، أن كلامها معك طيب، تقضي شهوتك بكل حب وود، تربي أبنائك تنظف ملابسك، تعتني بالبيت، تحافظ على نفسها إذا خرجت، هذه كلها إيجابيات، وإن كان هناك ماذا؟ سلبية واحدة. نعم.
Ici, Cheikh nous cite une réalité. Il nous dit, hafidhahullah, certains parmi nos époux, enfin, parmi les époux, lorsqu'ils se sont mariés, ils ont connu leur femme comme étant des personnes qui avaient, par exemple, un certain bon comportement, le fait de manger doucement, etc. Mais lorsqu'elles sont à la maison, il se peut qu'elles mangent beaucoup ou qu'elles mangent d'une manière déplaisante, qui déplaît son mari. Cheikh nous dit, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ce comportement, mais plutôt regarder les bons côtés de ton épouse. Ton épouse, c'est celle qui éduque tes enfants. Ton épouse, c'est celle qui prend soin de toi. Elle prend soin de la maison. Elle préserve ton secret. Elle s'occupe de laver tes habits. Elle s'occupe de, mathalène, si vous avez des rapports, à le faire avec douceur et avec le plus grand amour qui soit. Pourquoi tu t'arrêtes à ce comportement que tu as vu? Donc Cheikh nous a expliqué avec un exemple concret le sens du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
كذلك في حق المرأة وأنا أذكر أمثلة واقعية. تتزوج المرأة بهذا الرجل وإلا هذا الرجل لا يعتني بنفسه من ناحية الرائحة، لا يضع عطورات، رائحته دائما كذا، فتقول أريد الطلاق مباشرة. لا، من الحلول اشتري له معطر الديودرنت، ما في بأس، تشتري له وتعلمه بعض الأمور. طيب، خلوق متدين، يحب الخير، يعامله أحسن معاملة، ولكن فيه هذه الصفة غير الجيدة، فتستطيع أن تعلمه وتصبر عليه في ذلك. ليس الطلاق حلا، قد تبحث عن زوج آخر لن تجد مثله، قد تجد أنيق يلبس كرافتة يتعطر ولكن خلقه سيء ويتعامل معاملة سيئة، قد يكون أصلا من أكثر الناس خيانة وزنا من ورائها والعياذ بالله، ما تكتشف إلا بعد ذلك. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة، لا يفرك لا يبغض مؤمن مؤمنة وكذلك المؤمن المؤمن إن كره منها خلقا رضي آخر. نعم.
Cheikh nous cite un autre exemple, hafidhahullah, qui est réel et qui est concret. Cette fois-ci du côté de l'épouse. Il se peut que l'épouse déteste son mari ou est mécontente d'un des traits de caractéristiques de son mari qui est qu'il ne prend pas soin de lui. Il ne met pas de parfum, il ne s'habille pas avec des habits qui lui plaisent, mathalan. Cheikh nous dit, il dit à cette épouse de patienter. De patienter et de regarder les bons côtés de cet époux. Cet époux est un homme qui est, mashallah, qui s'accroche à sa religion. C'est un homme qui est doté d'un comportement éminent. C'est un homme qui prend soin de cette épouse comme personne ne pourrait prendre soin d'elle. Donc elle doit regarder les bons côtés. Et Cheikh nous dit, hafidhahullah, le divorce n'est pas une solution. Le divorce n'est pas une solution. Pourquoi? Car il se peut que cette personne divorce et va se marier avec un autre qui, oui, lui, peut-être prendra soin de lui et prendra soin de s'habiller correctement et de mettre les meilleurs parfums, mais qui n'aura pas le même comportement avec elle. Et le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité est une règle que chacun d'entre nous doit toujours avoir à l'esprit, qu'un croyant n'est pas de mépris ou n'est pas de rancœur ou de rancune, ne déteste pas une croyante. S'il voit d'elle un comportement qui lui déplaît, alors qu'il regarde les bons côtés de la chose et qu'il regarde ses bons comportements.
نأتي الآن إلى أحكام الخطبة وهي الأحكام التي تتقدم عقد النكاح. نعم.
Donc nous allons désormais parler des règles de al-khitbah. Al-khitbah que vous pourrez traduire par la demande de mariage ou bien la promesse de mariage.
Abaha al-Islam al-nazar ila al-makhtouba.
L'islam a permis au prétendant, yani celui qui va demander une femme en mariage, de regarder la future mariée.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يقدم بينكما.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous va demander une femme en mariage, alors s'il peut voir ce qui peut l'inciter et ce qui peut le pousser à se marier avec cette femme, alors qu'il le fasse, alors qu'il le fasse. Et dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, car cela est plus à même, c'est plus propice à enraciner l'amour et l'harmonie entre les deux époux.
وهذا النظر يجب أن يكون من غير خلوة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ينظر إلى ما يغلب ظهوره من المرأة، وهو الوجه والكفين. تجلس بكامل حشمتها بحجابها الشرعي، تكشف عن وجهها وعن كفيها، ويكون من غير خلوة، تجلس هي وأمها، هي وأبوها، هي وأخوها. فيأتي هذا الرجل إلى هذه المرأة التي يريد أن يخطبها أثناء الخطبة فيجلس معها فينظر إليها. نعم.
Donc ce regard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a permis de faire lorsque la personne va demander une femme en mariage, bien sûr c'est un regard qui est légiféré et qui est conditionné par certaines règles. La première de ces règles, c'est qu'il ne soit pas fait en tête à tête. Lorsque la personne va demander une femme en mariage, cette demande ne doit pas être faite en tête à tête avec cette femme. La deuxième, c'est qu'il doit regarder simplement ce qui est habituel pour une femme de montrer aux yeux de tous. Donc, yani, qui est son visage et ses mains. Donc, la femme reste bien sûr couverte et le prétendant peut voir, yani de manière volontaire, son visage et ses mains. Et donc, que ce ne soit pas fait en tête à tête. Donc, elle s'assoit maintenant avec ses parents ou avec son frère. Et cette personne, yani ce prétendant, vient s'asseoir, discuter avec eux, yani demander cette fille en mariage et regarder ce qui pourrait yani le pousser à se marier avec elle.
إن لم يتيسر النظر إلى هذه المرأة المخطوبة مثل بعض، قد تكون هي في دولة وهو في دولة، أو قد يكون في مجتمع الأب متعصب جدا لا يريد من الخاطب أن يرى الزوجة، قد يكون في مجتمع ما الذي يفعله؟ يريد يسمع عن هذه المرأة أنها ذات دين وخلق وإلى آخره، له أن يرسل امرأة تنظر إليها. طبعا الأصل النظر، ولكن نقول لم يستطع، لم يتيسر، هي في دولة وهو في دولة، الأب الأخوة متعصبون لا يريدون أحد ينظر إليها، وهذه المرأة موصوفة بالخلق والدين ولم يستطع النظر إليها، يستطيع أن يرسل امرأة تنظر إليها ثم تخبره بذلك. وإن كان الأصل الذي ندعو إليه وهو الذي أباحه النبي وأباحه الشرع هو النظر إلى المخطوبة مباشرة، ولكن نقول في بعض الحالات التي لم تتيسر، هل تترك النكاح؟ قد تبحث عن نساء ولم تجد امرأة متدينة، ما وجدت إلا هذه المرأة ولكن لم يتيسر لك الرؤية، هل تتركها؟ هناك بعض الأمور تستطيع أن تفعلها قد يتيسر لك الزواج وتكون أفضل من غيرها. نعم.
Et donc Cheikh nous dit, hafidhahullah, si il n'est pas possible pour une raison ou pour une autre de voir directement la future épouse lorsqu'il va demander cette femme en mariage, car certaines fois yani, il se peut pour une raison ou pour une autre qu'il soit difficile de regarder yani, la future épouse. Alors il est permis d'envoyer une femme qui va la regarder, qui pour elle c'est plus facile yani, de regarder la future épouse, et qui va ainsi ensuite lui la décrire. Classe. Donc ceci est permis, Cheikh nous dit, ceci est permis bien sûr, mais la base et ce à quoi nous appelons, et ce à quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé, et ce à quoi la législation d'Allah jalla wa ala a autorisé de faire bien sûr, c'est de s'asseoir et de regarder directement yani, la future épouse que l'on va demander en mariage.
وهناك مسألة مهمة جدا وخاصة للشباب، من استشير بخاطب أو مخطوبة وجب أن يخبر بما يعلم. جاءك رجل وقال لك خطب أختي مثلا أو بنتي صديقك فلان، وتعرف أنه من أهل الفساد ولا يصلح للزواج، لا تكتم ذلك، ما تستطيع أن تذكر تفاصيل الأمور، قل له لا يصلح للزواج، أنهى الموضوع. بعض الناس يكذب لأنه صديقه، لأنه عشيره، يريد أن ينفعه بذلك، هذا أكبر حرام، فهو غش للمسلمين، لا يجوز. يجب عليك أن تخبر سواء كان في الخاطب أو في المخطوبة. نعم.
Ici, on a une question extrêmement importante et une question qu'il faut bien comprendre et savoir. Si quelqu'un est consulté au sujet de quelqu'un qui souhaite se marier, par exemple, quelqu'un vient te voir et te dit « Je sais que tu es l'ami de un tel et c'est ton ami est venu se présenter pour demander ma sœur en mariage. » Qu'est-ce que tu en penses? Si tu sais que cette personne est une personne mauvaise, est une personne qui n'est pas capable de se marier, qui est une personne qui n'est pas compatible avec cette sœur en question, alors tu es dans l'obligation de lui en informer. Tu es dans l'obligation de lui dire. Et même si, Mathalan, tu ne peux pas citer les détails ou tu n'as pas envie de citer les détails, alors contente-toi simplement de dire cette personne n'est pas apte. Je te déconseille de, yani, d'accepter sa demande en mariage. Cheikh nous dit, Hafidahullah Ta'ala, le fait que la personne, parce que c'est son ami, cache ses défauts pour qu'il puisse se marier avec cette épouse et qu'il ne dise pas les défauts et qu'il cache les défauts, ceci fait partie des plus grands péchés, car c'est une trahison, c'est une trahison et de la triche. Classe. Donc voilà pourquoi lorsqu'une personne est consultée au sujet d'un prétendant, il se doit d'être véridique.
وهناك مسألة أخرى مهمة، إذا خطب رجل امرأة وأجيب، يعني وافقوا في الغالب لم يحصل عقد النكاح، هنا لا يجوز أن تخطب هذه المرأة على هذا الرجل. بعض الناس فيه مرض نفسي، يذهب رجل لخطبة امرأة ويسمع عنها وهو قد يكون أحسن من هذا الرجل خلقا مالا وضعا اجتماعيا، فيذهب ويخطب نفس المرأة على خطبة أخيه، هذا حرام. إن خطب رجل امرأة وأجيب إلى ذلك لا يجوز أن تخطب حتى يمتنعوا عن ذلك، لا يحصل الزواج، يردون هذا الرجل، فهنا يجوز له أن يخطب مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، إما يتم الزواج وإما يحصل هناك رفض من أهل المرأة لهذا الرجل. نعم.
Il y a une autre question qui est également très importante, à savoir que lorsqu'un prétendant va se présenter pour demander une femme en mariage et que de manière générale, yani, tout est lancé, on va dire. Mais le contrat de mariage n'a pas été encore conclu. Simplement, c'est une promesse de mariage, ils se sont mis d'accord. Il est interdit, il est formellement interdit pour un musulman d'aller demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage. Il est formellement interdit d'aller demander une femme sur la demande de son frère, même s'il pense que lui, il est plus compatible, qu'il est mieux, qu'il a plus d'argent, ou là, tout cela est interdit. Et le seul moment où il pourra aller se présenter pour demander cette femme, c'est dans deux cas de figure. Soit la personne, donc le premier prétendant, a été refusé, ou il a délaissé, donc le mariage n'a pas eu lieu. Et la deuxième, bien évidemment, donc si le mariage est conclu, ici c'est terminé, elle est l'épouse du premier prétendant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne va demander en mariage sur la demande de son frère jusqu'à temps qu'il soit, ou bien sauf s'il est marié, ou yani, que le mariage n'a pas été conclu. Donc comme j'ai dit, soit il a été refusé, ou soit il a délaissé cette demande, et donc à ce moment-là, la femme est prête à se marier avec un autre.
نتكلم الآن عن عقد النكاح عن أركانه وعن شروطه وفي الغالب الفرق بين الأركان والشروط أن الأركان من الماهية والشروط هي صفات خارج الماهية وسيأتي التفريق أو الكلام على الأركان وعلى الشروط نعم.
Donc nous allons désormais parler des piliers et des conditions du mariage. Les piliers et les conditions du contrat de mariage. Quelle est la différence entre les piliers et les conditions? De manière très succincte, il faut savoir que les piliers sont des choses qui sont yani inhérentes et intègres, yani qui sont dans le mariage. Et les conditions, ce sont des choses qui précèdent le mariage. De manière générale, yani dans l'ibadat, voilà ce qu'est la différence entre les piliers et les conditions.
الركن الأول أركان النكاح ثلاثة أركان أركان النكاح ثلاثة الركن الأول هو وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع الزواج والنكاح سيأتي ضرب أمثلة نعم.
Donc les piliers du mariage sont au nombre de trois. Et le premier de ces piliers, c'est la présence des deux parties, donc la présence des deux parties, qui sont bien évidemment exempts de tout ce qui pourrait entraver le mariage et de tout ce qui pourrait empêcher la validité du mariage, et nous allons les citer tout de suite.
رجل ذهب يتزوج امرأة يخطبها فقالوا له إن هذه المرأة هي أختك بالرضاعة قبل أول ما انولدت فإن هذه المرأة قد أرضعتك وأرضعت هذه البنت رضعات متممات للرضاعة فهي أخته بالرضاعة هذا مانع من الموانع لا يجوز أن يتزوجها
Parmi ce qui pourrait entraver la validité du contrat de mariage, il y a la lactation, yani le fait que ce soit par exemple sa sœur de lait. Si une personne maintenant va demander une femme en mariage et qu'on lui informe que cette femme, lorsqu'il était enfant, a été allaité par la même femme que lui lorsqu'il était enfant. Yani si moi j'ai été allaité par une femme et une autre femme dont j'ai envie de me marier avec elle a été allaitée par la même femme, cette femme devient ma sœur de lait. Et donc ce lien de lactation, yani le fait que ce soit ma sœur de lait, est un empêchement parmi les empêchements de la validité du contrat de mariage. Je ne peux pas me marier avec cette femme.
امرأة طلقها زوجها ثم خطبها مباشرة رجل لا يجوز أن يتزوجها حتى تنتهي العدة فبما أنها في العدة الآن سواء إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض لو وقع الزواج هذا الزواج باطل لا يصح لأن فيها مانع وهو العدة لا بد أن تنتظر العدة ثم بعد ذلك تتزوج وهذا أمر خطير كثير ترد الأسئلة أن بعض النساء لا تعتني بهذا الموضوع يخطبها رجل ثم تتزوج منه ولا تخبره بموضوع العدة والله المستعان نعم.
Et parmi également les empêchements qui entravent la validité du contrat de mariage, il y a le fait que la femme soit en période de viduité. Donc lorsqu'une femme est divorcée, elle doit attendre une période de viduité, qui est de trois, on va dire, périodes menstruelles. Et certaines femmes, malheureusement, Yanni Echir nous dit, Hafidallah, beaucoup de questions reviennent à ce sujet. Beaucoup de femmes posent la question, alors elles viennent d'être divorcées par leur mari, et donc elles veulent se remarier directement. Elles ne veulent pas attendre la période de viduité. Et donc, d'autres prétendants viennent se présenter à elles et elles ne les informent pas du fait qu'elle est en période de viduité. Et cette période de viduité est un empêchement. Si elle venait à se marier pendant cette période de viduité, le mariage serait caduc.
الركن الثاني وهو ما يسمى الإيجاب حصول الإجاب، وهو اللفظ الذي يصدر من ولي المرأة أو من يقوم مقامه، وهو مثلاً في الزواج أول ما يتم العقد يقول ولي المرأة أو من يقوم مقامه للزوج: زوجتك بنتي فلانة، أنكحتك بنتي فلانة. هذا يسمى ماذا عند الفقهاء؟ الإيجاب. شوفوا الإيجاب ما يكون من الزوج أول شيء، يكون ممن؟ من ولي المرأة، يجلسان يقول زوجتك بنتي فلانة، هذا الإيجاب. نعم.
Le deuxième pilier, parmi les piliers du mariage, c'est al-ijab, que l'on pourrait traduire par la proposition de mariage. En fait, c'est une déclaration verbale. Donc, c'est le fait de dire verbalement, textuellement, je te donne en mariage telle personne. Je te marie à telle personne. Et cette déclaration de mariage, elle se fait par le tuteur de la mariée ou par son mandataire. Yani le tuteur peut mandater quelqu'un pour faire le mariage, yani l'ijab, à sa place.
الركن الثالث، أركان النكاح ثلاثة، الركن الثالث وهو القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج. لما يقول له الولي زوجتك بنتي فلانة، يقول الزوج قبلت وافقت، هذا يسمى القبول. الآن ثلاثة أركان انظروا إليها، لا بد من تحديدها. نعم.
Le troisième pilier parmi les piliers du mariage, c'est al-qaboul, donc l'acceptation. On avait dans le deuxième pilier la proposition de mariage, donc faite par le tuteur ou son mandataire. Et on a en troisième pilier l'acceptation. C'est le fait pour le prétendant, donc celui qui vient demander en mariage, de dire j'accepte cette proposition. J'accepte de prendre une telle comme épouse.
من شدة عقد النكاح وعظم عقد النكاح وقوة عقد النكاح عند المسلمين في شرع الإسلام أن من تلفظ به ولو هازلا ولو ضاحكا ولو مستهزئا فإنه يقع ولو لم ينويه. وهو عظم هذا الأمر. نعم.
Parmi les choses avec que l'islam est venu préserver, il y a le mariage. Et le mariage, c'est quelque chose de très important. Et pour montrer l'importance, la force et le poids du mariage en islam, il y a le fait que il ne faut pas prendre ce mariage à la légère. Et que lorsqu'une personne, yani, prononce ce mariage, même s'il le faisait pour plaisanter, alors ce contrat serait quand même validé. Ça montre, yani, que le mariage en islam n'est pas à prendre à la légère.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما راح نذكر الثلاث، اذكر الترجمة.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a trois choses qui, lorsqu'elles sont dites de manière sérieuse, elles sont prises au sérieux. Et lorsqu'elles sont dites de manière à plaisanter, elles sont quand même prises au sérieux. Donc, Cheikh nous demande qui connaît quelles sont ces trois choses.
Et tafadhal. Ma asma' as-sawt. الثلاثة، نريد الثلاثة، ما هي ثلاثة أمور؟ سآتي إذا لم يوجد. الثلاثة أمور، ما هي الثلاثة التي جدهن جد وهزلهن جد؟ هذا واحد، نريد ثلاثة أمور.
الزواج، الطلاق، والحلف.
لا،
الزواج، الطلاق،
هو قال الزواج والطلاق وكلمة كفر.
لا، تفضل. لا،
معليش. نعم. لا، هو قال الزواج والطلاق والنذر.
والنذر. لا، تفضل يا شيخ.
le mariage, le jurement et le divorce.
Le
serment. Le serment. Le zawaj ou le halif.
Le fait de jurer.
Il a dit
pas. Ah, zawaj ou le talaq ou le halif.
Ou le halif, là.
الزواج والطلاق والعتاق
والعتاق في رواية العتاق سنعطيه الجائزة الرواية المشهورة والرجعة رجل طلق زوجته وهي في العدة الآن قال أرجعتك ثم قال لا أضحك لا ما أرجعت لا ترجع ما فيها ضحك في رواية العتق كذلك أعتق رجل كذا نعطيك الجائزة طبعا أنت اختار تريد من الكتب أم تريد من الجائزة التي في الأسفل كيفك أنت الذي تختار تفضل يا شيخ تعطيه بسم الله جزاك الله خير طيب أمر عظيم جدا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد نعم
دونك لي تخوا شوز
الطلاق والنكاح ما قلناها والرجعة في رواية العتق نعم
Donc les trois choses qui ne sont pas à prendre à la légère. Et bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses. Si elles sont dites de manière sérieuse, elles sont bien évidemment prises au sérieux. Et si elles sont dites de manière à plaisanter, alors elles sont quand même prises au sérieux. Ces trois choses sont le divorce, ensuite le mariage, et enfin le fait de reprendre son épouse si elle a été divorcée et qu'elle est encore dans la période de viduité. Et Cheikh a donné un exemple pour bien comprendre que si une personne venait à divorcer son épouse et donc elle serait en période de viduité pendant donc les trois mois, s'il lui disait un jour c'est bon, je te reprends, et ensuite il lui disait non, je rigole, ici la reprise s'effectue et ça redevient sa femme. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère.
نتكلم الآن عن شروط النكاح وهي أربعة.
Donc nous allons désormais parler des conditions du mariage qui sont au nombre de quatre.
الشرط الأول تعيين كل من الزوجين وهي مسألة مهمة. مثال ذلك الولي هذا الأب عنده خمس بنات فيقول للزوج زوجتك ابنتي هذا لم يعين هل هي الكبيرة الصغيرة فلانة فلانة إذا لابد من تعيين كل من الزوجين زوجتك بنتي فلانة أو زوجتك بنتي هذه التي تجلس بجانبي لابد من تعيينها نعم
Donc la première des conditions parmi les conditions du mariage c'est le fait de désigner et d'identifier les deux époux. Donc de bien les désigner sans ambiguïté. Et Cheikh nous donne un exemple, donc si donc le tuteur de un père de famille qui veut marier sa fille. Et ce père a cinq filles. Il a cinq filles et il dit au prétendant, je te marie ma fille. Ici, il n'a pas désigné laquelle. Je te marie ma fille, oui, laquelle? On ne sait pas. Donc il est obligé de désigner la fille qui est mariée et soit en la désignant, soit en lui donnant son nom, ou soit en disant je te marie cette fille qui est à côté de moi, etc.
الشرط الثاني رضا كل من الزوجين لا يجوز الإكراه لا يكره الرجل ولا تكره المرأة رضا كل من الزوجين بهذا الزواج نعم
La deuxième condition, c'est le consentement. C'est le consentement des deux époux. Il faut que chacun des deux époux soit consentant et accepte et veut bien se marier avec le futur époux ou épouse. Car en islam, il n'y a pas de mariage forcé. En islam, il n'y a pas de mariage forcé. En islam, il n'y a pas de mariage forcé. Car si cela venait à arriver, le mariage serait caduc. Et donc, il faut que l'épouse soit consentant de se marier avec ce prétendant et que ce prétendant soit consentant de se marier avec cette épouse.
الشرط الثالث هو أن يكون العاقد للمرأة هو وليها أو من ينوب عنه لا تنكح المرأة أو تنكح المرأة نفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أمر مهم جدا نعم
La troisième condition, c'est le fait que ce mariage soit contracté par le tuteur de la femme. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun mariage n'est valide sans tuteur. Il faut absolument que le tuteur soit présent et que c'est lui qui contracte le mariage. Et ça peut être le tuteur comme ça peut être son représentant, yani son mandataire ou son remplaçant, une personne qui l'aura désigné pour faire le mariage à sa place.
من هو ولي المرأة؟ مسألة مهمة جدا يجب علينا أن نفقه هذه المسألة. وكذلك النساء ما تذهب من بأي رجل يقرب لها ثم يزوجها. لا، من هو الولي؟ نعم.
Question ici extrêmement importante. Il est très important de savoir qui sont ses tuteurs. Yani lorsqu'une femme veut se marier, elle doit savoir qu'elle a un tuteur. Et ces tuteurs-là, il faut qu'elle les connaisse. Qui sont les tuteurs de la femme? Une femme ne peut pas se marier par n'importe qui. Elle va voir n'importe qui, elle dit marie-moi. Là, elle doit obligatoirement appeler le tuteur, yani son tuteur légal qui va la marier.
ولي المرأة هو الأب ثم يكون الوصي. يعني الأب يقول فلان هو وصي في تزويج ابنتي ثم بعده ثم بعد الوصي هو الجد لأب. ما هو الجد لأم؟ حتى لو كان الجد لأم موجود لا يزوج. إذن الأب ثم الوصي الذي يوصي له في حياته يقول هو عني ثم الجد لأب وإن على ثم الابن وإن نزل. امرأة في الأربعين وولدها عمره 20 ويريد أن يتزوجها. من الأمور طبعا أذكر ترجم الآن هذه ثم سنذكر المسألة. نعم.
تكمل ولا؟
أكمل. من الأمور حصلت رجل يريد أن يتزوج امرأة وولي المرأة هو ابنه، فيقول هذا الولي ابن يقول له والله ترى ما أزوجك. يقول لأبيه كيف؟ هذا الأب طلق زوجته وهو كبار، والمرأة هذه ليس لديها أب، أبوها ميت، وابنها عمره 20 سنة كبير وبالغ ورشيد إلى آخره، يريد أن يتزوج، انقطعت الآن العدة، انتهت العدة، يريد أن يرجع لزوجته، فلا بد من نكاح جديد. من الولي الآن؟ الابن، ابنه. يقول لها زوجني أمك. يقول لا لا أريد. يضحك مع أبيه. يقول إن ضربتها إن فعلت لا أزوجك. يقول له اصبر والله فقط توافق أضربك بعد ذلك. فالآن انظروا ماذا، ولي المرأة هو الابن، لأن لا يوجد لا الأب ولا الوصي ولا الجد، انتقلنا إلى الابن. نعم.
Donc les tuteurs qui sont, donc les personnes qui sont tuteurs légales pour une femme, pour marier une femme, sont dans l'ordre. Tout d'abord son père, ensuite le mandataire. Donc si son père mandate une personne pour marier sa fille à sa place par exemple, alors ça sera lui. Ensuite le grand-père, mais pas n'importe quel grand-père, le grand-père du côté du père, donc le grand-père paternel, même si c'est son arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, il faut que ce soit du côté paternel. Ensuite le mandataire de ce grand-père. Ensuite son fils, si la femme a un enfant, un homme, un fils, alors ça sera lui. Ensuite les petits-fils de ce fils. Et Cheikh ici a fait une petite parenthèse, il nous dit Hafidhahullah, si une femme une femme à la quarantaine d'années qui a un enfant, un homme de 20 ans, c'est son fils, et dont le père a divorcé, donc la femme, donc c'était un couple avec un enfant de 20 ans qui ont divorcé et la période de viduité s'est terminée, donc ils sont étrangers l'un de l'autre. Mais cet homme veut reprendre sa femme après cette période de viduité. Il a bien réfléchi, il a dit je vais reprendre et Inch'Allah nous allons refonder, continuer notre foyer. Et cette femme n'a ni père ni grand-père, donc son tuteur sera son fils. Cheikh nous dit, donc le père il vient voir le fils et il lui dit marie-moi ta mère. Et donc le fils la suite j'ai oublié avec le hal, mais voilà, le tuteur ici ça sera le fils, ça sera lui qui va marier son père à sa mère. Subhanallah.
ثم بعد الابن لا يوجد ابناء يكون الاخ لابوين اخ شقيق من الاب والام. لا يوجد هو بالترتيب ما هو بالاختيار يكون الأخ لأب لا يوجد بعد ذلك يكون أبناء الأخ لأب ثم أبناء الأخ الشقيق ثم أبناء الأخ لأب ثم بعد ذلك ينتقل إلى العم ثم بعد ذلك إلى أبناء العم ثم بعد ذلك للأقرب نسبا كالميراث وما في الأخ لأم لا يوجد ثم بعد ذلك ينتقل المسألة طبعاً المعتق لا يوجد ينتقل إلى الحاكم أو إلى القاضي فالمسألة في الولي مسألة شديدة لا تترك لأي أحد نعم.
Et donc ensuite après le fils dans l'ordre donc on a le fils si on n'a pas le fils alors ça sera les petits-fils de la prétendante qui seront en tuteur légal ensuite le frère germain donc le frère qui a le même père et la même mère. Mon frère de sang qui est mon frère germain. Donc moi, j'ai un frère qui ont en commun le même père et la même mère. Ensuite, si celui-là n'est pas présent, alors mon frère du côté du père, donc mon frère paternel. Ensuite, les enfants de mon frère germain, ensuite les enfants du frère paternel, ensuite l'oncle germain, ensuite l'oncle paternel, ensuite leurs enfants, yani dans l'ordre. Et enfin, le plus proche parent. Parmi et ensuite le plus proche parent parmi les hommes et si toutefois elle ne trouvait pas un proche parent parmi les hommes parmi les musulmans qui peut être tuteur alors ça sera celui qui est doté d'une autorité comme par exemple un juge ou quelqu'un qui a une autorité quelconque
الشرط الرابع والأخير وهو الشهادة على عقد النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لابد يكون هناك شاهدان على هذا النكاح هذا هو الشرط الرابع والأخير نعم.
Donc la quatrième et dernière condition parmi les conditions du mariage c'est le fait c'est la présence des témoins donc l'islam met comme condition pour le contrat de mariage la présence de deux témoins intègres des gens intègres yani des musulmans intègres et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun mariage ne sera valide sans la présence du tuteur légal et de deux témoins intègres
سؤال حتى ننشط الذاكرة ومن يجيب ما هي أركان النكاح الثلاثة؟
Donc question quels sont les trois piliers du contrat de mariage؟
إذا ما القاعدة الذي لا يجيب هو يعطيني جائزة ها خلاص أوكي okay, ها
شيخ دي celui qui répond avec une erreur ou qui ne répond pas, ça sera lui qui doit lui donner un cadeau. Ah.
أركان النكاح الثلاثة ما هي؟ قل لي واحد كذا، اثنان كذا، ثلاثة كذا. لا تعرف؟ قل لي لا أعرف. ممتاز كذا فيه شدة ها؟ آه. لا. ها؟ آه. تفضل. طيب اثنان ممتاز الثالث
نعم. حضور الطرفين المانع نعم الخالي من الموانع
الخالي من ممتاز جزاك الله خير تريد هذه ام هذه آه. ممتاز جزاك الله خير أجل. طيب سؤال اخر
question suivante
نريد ترتيب اول خمس اولياء ترتيب خمس اولياء تفضل يا شيخ للمرأة الذي يخطئ من واحد يعطيني جائزة طيب الأب ثم الوصي ممتاز ثم الجد للأب وإن علا ممتاز لا يوجد وصيه ما عليه هذا خطأ تفضل يا شيخ ما عليه الخطأ وارد
شيخنا ما في وصي للجد
لا
انا قلت وصي للجد
ها اذا نكمل ها 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 في الورقه وصي للجد
العلم لله
ها لا يوجد.
لا يوجد.
إيه لا يوجد. نكمل. إذا نصحح. ما الخطأ وارد. لا الحمد لله الدين موجود وكذا والخطأ وارد على الجميع. نعم. نعيد. الأب. ثم وصيه لأنه أخطأ بالسماع هنا ها أي أي ها ثم الابن وإن نزل ممتاز ثم الأخ ولكن الأخ ماذا الشقيق ثم الأخ لأب ممتاز أعطيك تريد الكتب أم الجائزة التي تحت ها تفضل
صحيح شيخنا
ها
صحيح
تفضل هنا
Donc j'ai fait une erreur. Lorsque j'ai cité la liste des tuteurs dans l'ordre, j'ai fait une erreur et j'ai dit que le grand-père avait un mandataire. Mais en fait c'est faux, c'est une erreur de ma part. Le grand-père justement n'a pas de mandataire, c'est le père qui mandate et le grand-père, yani, sa présence, si elle n'est pas... donc si on n'a pas la présence du grand-père, alors on passe aux enfants.
طيب, عندنا شروط النكاح أربع. ما هي شروط النكاح؟
Quelles sont les conditions du mariage ?
تعيين الزوجين.
ممتاز. هذا واحد.
رضا الطرفين.
رضا الطرفين. ممتاز.
الولي.
الولي.
الشاهدين.
الشاهدان. ممتاز. تريد الكتب أم الأسفل؟ جزاك الله خير. بارك الله. طيب. نكمل ويوجد أسئلة إن شاء الله. بعد ذلك طبعا حتى ننبه ونوضح الصورة لا يشترط في النكاح هذا العقد العظيم أن يكون هناك من يعقده يعني رجل يعقد ذلك إنما الذي يعقد هو يوثق الأمر خاصة وأن كثير من المسلمين لا يعرفون ويجهلون أحكام النكاح
طيب دونك ici à savoir il n'est pas Donc, comme vous avez vu, on n'a pas cité dans les conditions la présence d'une personne qui vient faire le mariage. Donc, dans les conditions qu'on vient de citer, les quatre conditions, on n'a pas une personne tierce qui vient faire le mariage comme c'est connu. Donc ça, ça se fait, mais ce n'est pas une condition.
مثال ذلك لو كان الزوج موجودا وذهب إلى والد هذه البنت ويوجد هناك شاهدان في المجلس وقال هذا الأب شوفوا الآن المجلس فيه أربعة الخاطب والولي وشاهدان فقال الولي للزوج للخاطب زوجتك بنتي فلانة وقال قبلت ثلاث كلمات في مجلس مع وجود شاهدي عدل فإن الزواج يتم شوفوا الآن الزواج لا الكتابة توثيق وهذا أمر طيب ولكن ينعقد عقد الزواج هذا الميثاق الغليظ ولي وكذلك وجود الزوج وقال قبلت وهناك إيجاب وجود الشاهدين فإن الزواج يتم نعم
نعم donc ici Sheikh nous donne un exemple si مثلا on a un prétendant qui va voir le père de la prétendante donc le père de la prétendante c'est son tuteur Et donc dans l'assemblée, on a tout simplement le prétendant avec son père et il y a deux témoins qui sont en plus dans l'assemblée. Donc ils sont au nombre de quatre. Si, donc bien sûr, la prétendante est d'accord, etc., le père, donc le tuteur de la fille, donne sa fille en mariage et le prétendant accepte, alors à ce moment-là, le mariage se conclut. Le contrat de mariage est conclu. Et Shir nous dit que yani le fait tawthir yani le fait de en français voilà je sais même pas comment on dit le tawthir le fait de documenter yani d'écrire ce contrat de mariage sur un papier etc comme c'est fait à la mairie contrat le contrat de mariage on va dire sur papier نعم
التوثيق يعني الذي يكتب في
اي نعم
عند البلديه وكذا
نعم يوثق هذا الامر
لو فات
يعني حتى لو وثق بورقه
احسنت استلموك شيرشي لو فات دو سيرتيفي لو فات دو سيرتيفي لو كونترا سور بابيي ني با اون كونديسيون نعم
نتكلم الان عن الصداق صداق النكاح ومهر المراه نعم
Donc nous allons parler désormais de la dot. La dot que l'on donne lors du mariage.
الصداق والمهر هو المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. هذا مهم جدا. نعم.
Donc la dot, c'est le bien qui va être donné à cette épouse en raison de ce contrat de mariage.
وحكم الصداق والمهر واجب على الزوج قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا نص في وجوب المهر والصداق على الزوج للزوجة. نعم.
Et donc cette dot est une obligation pour le mari. Allah Jalla wa Ala dit dans le sens rapproché des versets et donner à vos épouses, yani donner aux épouses leur dot, donner aux épouses leur dot, yani de bon gré. Et ça, c'est un texte clair qui indique l'obligation de la dot pour l'époux.
والمهر والصداق لا يوجد قدر لأقله ولا لأكثره.
Donc cette dot n'a pas de montant bien spécifique. Elle n'a pas de montant minimum ni de montant maximum.
وينبغي أن يحرص المسلمون على عدم تكثير ذلك وإثقال كاهل الزوج بالمهر.
Et il incombe à ceux qui veulent se marier ou à ceux qui veulent marier, yani de ne pas donner de dot extravagante, de ne pas faire d'exagération dans le montant de la dot au point où ça alourdit le dos du futur prétendant, yani de celui qui veut se marier, et que ça devienne une charge pour lui.
تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أعظم النساء بركة أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة سواء كان في الصداق أو في النفقة أو في غير ذلك. نعم.
Notre mère Aïcha radiallahu anha dit: la femme qui a le plus de bénédictions, la femme qui est la plus bénie, bénite, yani celle qui possède le plus de bénédictions, c'est celle dont les charges et les dépenses sont les plus légères, que ce soit dans la dot ou que ce soit dans les dépenses entre époux et épouse.
ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألا لا تغالوا في صدق النساء.
نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه disait: ne surenchérissez pas, n'exagérez pas, ne surenchérissez pas dans les dots de mariage.
قلنا أن الصداق حكمه واجب وأما تسميته في عقد النكاح فهو مستحب.
Donc nous avons dit que le fait de fixer la dot est une obligation pour le mari. Mais il est quand même préférable de le citer pendant le contrat. Donc la dot, elle est fixée, ça c'est entre les deux époux ou entre les deux parties, et le fait de la citer pendant le contrat, ça c'est simplement recommandé.
ويجوز أن يحدد قدر الصداق بعد عقد النكاح ولكنه واجب.
Et il est également permis de fixer le montant de la dot même après avoir conclu le contrat de mariage.
ننتقل بعد ذلك وباختصار وبشيء يعني يسير جدا على مسألة متعلقة بعقد النكاح ألا وهي عشرة النساء وهي الألفة التي تكون بين الزوج وبين زوجته. نعم.
Donc nous allons maintenant parler d'un sujet qui est important et qui concerne les règles du mariage, qui est عشرة النساء, yani le fait de cohabiter entre époux.
يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف.
Il incombe à chacun des deux époux de cohabiter avec son époux et son épouse de manière convenable, de manière yani bonne.
لا يماطله بحقه.
Et de ne pas retarder le droit de chacun.
ولا يتكره لبدله.
et de ne pas être réticent quant au fait de donner son droit, yani le fait de le donner de bon cœur.
ولا يتبعه أذى منه عليه يعني لا يتبع هذا الأمر حتى أذى ولو كان يسيرا.
Et même s'il venait à donner son droit, le fait de ne pas le faire suivre par une quelconque nuisance.
إذا بذلت لزوجتك أيها الرجل فلا تبذل وأنت كاره تطلب منك الزوجة مالا حتى تشتري أغراض البيت أشياء البيت تقول خذي 10 يورو أو كذا وأنت متكرر كله تطلبين هذا تكرر لا خذي وإن أردت زيادة فمن عيني شوفوا الطلب الطيب نعم
il incombe aux époux il incombe aux époux de qui dépensent pour leurs épouses de le faire de bon cœur et de ne pas être réticent. Yani, lorsqu'il va dépenser, ça sera matalan pour les affaires de la maison. Il ne doit pas donner matalan les choses qu'il doit donner avec un cœur serré et avec énervement et réticence.
أيضاً الرجل يريد حاجته وشهوته من زوجته فيقول أريد الشهوة فتقول خذ إن شاء الله الذي تريد طيب تعال هذا تكرر لا يجوز بل لا بد أن يكون هذا الأمر بطيبة وود وحب كيف يأتي الرجل زوجته وهي لا تطيق فقط اقضي الشهوة هذا لا يجوز قلنا كما هو على الرجل يكون كذلك على المرأة في جميع الحقوق إذا بذلت الحق المرأة وإذا بذل الرجل الحق لا بد أن يبذله بكل ود واحترام ومن غير تكره نعم
Donc également lorsque la personne donne le droit à son époux ou à son épouse, donc que ce soit du côté de l'époux ou que ce soit du côté de l'épouse, lorsqu'elle donne le droit, elle doit le faire avec yani bon cœur. Et Cheikh nous donne un exemple, مثلا, si la personne yani lors des rapports intimes, il ne doit pas avoir un des deux époux qui est réticent, yani qui le fait de manière comme si on l'avait forcé de faire. Yani, il convient de donner le droit à son époux avec amour, avec joie, avec bonté, de le faire yani, de la meilleure des manières. Et aussi également de le faire avec respect.
يقول الله عز وجل في حق الرجال وعاشروهن بالمعروف يأمر الرجال بمعاشرة النساء بالمعروف وكذلك يقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كذلك النساء يجب أن يعاشرن الزوج بالمعروف ليس فقط كفة الرجل أعلى من كفة المرأة ولا كفة المرأة أعلى من كفة الرجل كل يعاشر الآخر بالمعروف وبلا تكره نعم
Allah Jalla wa'ala dit dans le sens rapproché du verset wa'ashiruhunna bil ma'ruf et cohabiter avec elle de la meilleure des manières, cohabiter avec elle dans le bien. Et donc Allah Jalla wa'ala ici parle aux époux, cohabiter avec vos femmes de la meilleure des manières qui soit. Et Allah Jalla wa'ala dit concernant les femmes wa'lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, donc elles ont les mêmes devoirs que leurs droits, ou plutôt elles ont des droits équivalents à leurs devoirs et à leurs obligations. Donc de la même manière que l'époux a des devoirs envers son épouse, également l'époux a des devoirs envers son époux, et chacun doit les donner de manière convenable et cohabiter avec harmonie et respect.
La vie ليست حلبة مصارعة. صحيح
حلبة مصارعة يعني
تعرف المربع مال المصارعين
نعم.
الذين يضربون بعض
نعم.
الحياة الزوجية ليست حلبة مصارعة تعرف هذه الحلبة اللي يضرب صحيح
la cohabitation entre époux n'est pas un ring chérie nous donne une image يعني c'est pas un ring où on se frappe dessus
نعم بعضهم يظن يأتي الرجل وخاصة الشباب الصغار قبل أن يتزوجوا كل عنده قاعدة ينظر قل إذا تزوج هو لم يجرب إذا تزوجت أول يوم قل لها اعملي لي فطور وغداء وعشاء وإذا قالت اذهب إلى مطعم لا لأنها ستكسر عينك، فلا بد أن تكسر عينها هكذا، كأنها بعد سنة سنتين ثلاث تجد هو الذي يطبخ، هو الذي يكنس، هو واقع غير. الشباب خاصة الذين لم يتزوجوا عندهم قوانين وعندهم شروط قوية جدا. انظر إلى أبيك في البيت، انظر إلى صاحبك، قد تضربه الزوجة في بعض الأحيان، نحن ولكن أقول شدة الأمر. نعم.
Certains époux, et spécifiquement les jeunes, avant même de se marier, ils ont déjà des idées, ils ont déjà des conditions. Ils vont dire, moi lorsque je vais me marier, le premier jour, elle va me faire à manger. Le premier jour, elle va me faire ceci et elle va me faire cela. Si elle me demande d'aller directement au restaurant, je lui dis non, car sinon elle va s'habituer. Et Chif nous dit, malheureusement, tu retrouves ces époux-là, quelques années plus tard, eux-mêmes, c'est eux qui font à manger au final, dans yani, la maison. Et donc yani, il ne convient pas d'avoir yani, ces conditions qui sont difficiles, etc. etc. Yani, il faut cohabiter avec respect et harmonie.
وهذا خطأ في اعتقاد أن الحياة الزوجية حلبة مصارعة. الحياة الزوجية تعاون، ألفة، طمأنينة، سكن، ود، حب، احترام، تقدير، كل يعامل الآخر بمعاملة طيبة. نعم.
Et donc c'est une erreur de penser que la cohabitation avec les époux est, comme Cheikh nous a donné l'image, un ring, yani, où on se frappe. Non, c'est faux. La cohabitation avec les époux, c'est plutôt le fait de vivre convenablement, le fait d'être en harmonie, de cohabiter, d'être yani, familier avec son époux, de مثلاً, yani, vivre une vie paisible et agréable, yani, d'être facile l'un envers l'autre.
كذلك في مسألة مهمة، يحرم على الرجل أن يطأ زوجته حال حيضها، هذا حرام. يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته بالحلال وبما شرعه الله عز وجل، وأما حال الحيض فيجب عليه أن يجتنب الوطأ. يجوز له أن يتمتع، ولكن لا يجوز له أن يطأ زوجته حال الحيض، وهو من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم.
Et donc parmi les règles importantes à savoir dans la cohabitation que chacun des deux époux doit avoir, c'est que le mari, il lui est interdit formellement d'avoir des rapports intimes avec son épouse pendant sa période menstruelle. Il est totalement interdit d'avoir des rapports intimes avec son épouse pendant la période menstruelle. Allah Jalla wa Ala a dit dans le sens du verset, et il s'interroge au sujet des menstrues. Dis-leur, c'est une impureté, écartez-vous de l'endroit où vos femmes ont leurs menstrues pendant la période menstruelle jusqu'à ce qu'elles se purifient, yani jusqu'à ce que leurs menstrues s'arrêtent et qu'elles fassent leurs grandes ablutions. Donc il est permis bien sûr de faire des prémices, etc. Mais ici, yani Shir, ce qu'il voulait dire, c'est que il est interdit d'avoir des rapports intimes, yani dans le lieu où la femme a ses menstrues.
كذلك مسألة مهمة، يحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع في البيت في الفراش خاصة، هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره، هذا حرام. ومن كبائر الذنوب تقضي شهوتك ثم تذهب إلى أصدقائك وتقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذا حرام لا يجوز. نعم.
Et parmi ce qui est très important de savoir et qui relève d'une importance capitale, c'est qu'il est formellement interdit pour les deux époux de dévoiler et de citer, de dévoiler au grand jour et de citer ce qui se passe entre les deux époux dans leurs relations intimes. Et plus spécifiquement, ce qui se passe, yani, dans les relations les mêmes, les plus intimes encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui auront la pire place auprès d'Allah Jalla wa Ala le jour du jugement. Ce sont celui et celle qui ont des rapports et qui vont et qui dévoilent au grand jour ce qui s'est passé entre eux de manière intime. Donc c'est grave et c'est un grand péché et c'est formellement interdit.
يقول الله عز وجل وهذه نصيحة للأزواج لأن الأزواج بيدهم الطلاق. قال الله عز وجل وينصح الأزواج الآن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ينبغي للزوج قدر المستطاع ألا يتسرع إلى الطلاق لأي مشكلة، ألا يتسرع إلى الطلاق لأي كره، ألا يتسرع إلى الطلاق لأي سبب يحصل. يقول الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية كلام عظيم لابن عباس، يقول ربما رزق منها ولدا يكون بينك وبين هذه الزوجة، وإن كانت قد تفعل ما تفعل من بعض الأمور التي تضايقك، قد ترزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا في هذا الولد الذي رزقك الله عز وجل. نعم.
ici شيخ حفظه الله veut faire un conseil et spécifiquement aux époux. Il fait ce conseil en disant je conseille aux époux de méditer sur la parole d'Allah Jalla wa Ala. Allah dit et donc cohabitez avec vos épouses de la meilleure des manières, donc de manière convenable. Et si vous détestez et si vous avez du mépris ou de l'aversion pour une chose qui les concerne, fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fiha khayran katira. Donc il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que dans cette chose Allah Jalla wa Ala y a placé un bien immense, un bien grandiose. Donc Cheikh nous dit de méditer sur ce verset lorsque nous cohabitons avec nos épouses et de ne pas s'empresser d'aller divorcer au moindre au moindre mal, à la moindre cause qui infligerait un mal à l'époux, alors il s'empresse de divorcer. Ceci est un grand problème. Ce n'est pas tout problème qui se passe entre les époux qui implique forcément de divorcer. Chéri nous dit de patienter. Patiente avec ta femme, même si tu détestes d'elle certains comportements. Et médite ce verset et rappelle-toi-le à chaque instant. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit une parole immense concernant ce verset. Il dit il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un enfant, te donne un enfant avec cette épouse dans lequel il va y placer un grand bien.
Wa ila huna يعني ننتهي بإذن الله عز وجل، وقد اختصرنا الأحكام المتعلقة بعقدي أو بأحكام النكاح. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Donc Cheikh nous dit voilà un petit résumé de ce qui concerne les règles du mariage. Et on demande à Allah Jalla wa Ala qu'il fasse que ses paroles soient bénéfiques pour nous tous. Et il salue et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakum Allahu khayran. Nasallahu alayhi wa sallam. Niyafada shaykhana wa yajziyahu khayran jazak. Ala ma qaddamahu. Et je remercie également et je fais du'a pour les frères qui sont présents. Hafidhakum Allahu jami'a. Le prochain cours. Après l'Asar, Inch'Allah, le prochain cours, on va chercher la tête, donc après l'Asar.